L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Donc, êtes-vous prêts à aller dans la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. On est bénis d'être ensemble ce matin. Amen. Êtes-vous bénis? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter à venir avec moi dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, et on va commencer au troisième verset, et je vais juste vous inviter à pencher vos têtes pendant quelques instants. On va remettre cette parole au Seigneur. Père éternel, on te remercie, Seigneur Dieu, pour le privilège qu'on a d'être rassemblés ici, ici au Québec et partout à travers la francophonie. On te remercie pour cette prédication, pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, on relâche notre foi pour recevoir de toi des révélations. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée de révélation pour votre propre vie. Amen. C'est une journée de révélation si vous le croyez. Amen. Je crois que Dieu veut que vous puissiez vivre une journée de transition, une journée de transformation. Je crois que c'est le cœur de Dieu et c'est le temps pour nous, pour chacun d'entre nous, qu'on reçoive aujourd'hui même cette révélation. Je vais vous apporter des choses et plusieurs d'entre vous, vous avez entendu des choses que je vais vous raconter aujourd'hui. Vous avez entendu et vous avez saisi certaines portions de la vérité intellectuellement. Vous l'avez reçu, je le sais, parce que j'ai vu, malheureusement, des fois une mauvaise compréhension de ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va corriger la mauvaise compréhension pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que la Bible dit, sans la confusion, pour que vous puissiez vraiment marcher dans ce que je vais vous enseigner. C'est vraiment un des messages les plus importants que vous allez entendre. Le message le plus important, c'est celui sur la nouvelle naissance, comment devenir un enfant de Dieu. Amen. Il faut comprendre comment devenir un enfant de Dieu. Après, on a besoin de comprendre comment être rempli de l'Esprit de Dieu. Et un autre message super important concerne l'autorité du croyant. Amen. Vous avez entendu ce message-là. C'est un des messages les plus importants, comprendre qui nous sommes en Christ, l'autorité du croyant. Mais après ce message-là, et ça fait vraiment partie du même message, on doit tout comprendre, mais c'est vraiment au niveau de la confession de la parole de Dieu. Comment Dieu nous appelle à déclarer sa parole. Et ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, je sais que c'est le cœur de Dieu pour vous de recevoir ce message, mais le recevoir comme Dieu veut que vous le receviez. Pas d'une façon intellectuelle, et je sais que pendant que je vais enseigner, des fois, on peut raisonner. On peut arriver et raisonner puis dire, ouais, ben oui, mais oui, mais oui, mais. Les oui, mais vont vous siphonner ce que Dieu veut pour vous. Mais si vous pouvez dire, aujourd'hui, au nom de Jésus, je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ et à sa parole, je veux croire la Bible. Combien d'entre vous voulez croire la Bible? Moi, je veux croire la Bible. Amen. Dieu m'a donné cette lettre d'amour et je veux croire ce que Dieu a dit. Amen. On a besoin de croire ce que Dieu a dit pour vivre la victoire. Dieu nous offre des paroles ici qui vont changer nos vies si nous croyons ce que Dieu a dit. Amen. Si nous croyons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est l'un des messages les plus importants dans la vie chrétienne parce que ça va changer le parcours de votre vie. Littéralement. Ce message change le parcours de votre vie et je vais vous le prouver bibliquement. Donc, je veux vous encourager, restez avec moi tout au long de la prédication. Avez-vous pris la décision ce matin? Je vais rester ici. Je ne parle même pas ici physiquement, là. Je parle mentalement, là, que spirituellement, que vous restez là. Parce qu'on peut partir, on peut s'en aller là. Partir, puis là, je peux dire, vous êtes là, votre corps est là, mais oh, lui, il s'en va chez McDonald's, il se prépare son hamburger. L'autre s'en va magasiner là. Et est là, ici, dans l'église, mais n'est pas ici là. Et dans ses pensées ailleurs. Mais dites au nom de Jésus. Non, non. Dites au nom de Jésus, je reçois. Là, le croyez-vous?
Oui.
Êtes-vous sûr?
Oui.
OK. Gloire à Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Je vais vous lire à partir de la version Bible du Semeur. Il est écrit, « Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Bon, je vais le relire. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs, en parlant des commandements de Dieu, ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu, pourquoi? Parce que ça nous dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu? Nous sommes des personnes nées de nouveau. Jean 3:3, n'est-ce pas? Nous avons passé de la mort à la vie, nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Amen. Donc, vous faites partie de ceux qui sont nés de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce verset-là vous concerne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ceci veut dire que vous triomphez. Ça veut dire que vous êtes dans la victoire. Amen. C'est ça que ça veut dire. Amen. Car tout ce qui est né, tout ce qui est né de Dieu, plutôt, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que j'ai besoin de croire. Quand on parle de la foi, nous parlons de croyance. Nous croyons que nous exerçons notre foi dans quelque chose. Et ici, on parle dans le Seigneur Jésus, dans sa parole. Donc, qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Encore, on se pose la question, mais c'est qui la gang de victorieux, en autre mot? C'est qui ça, la gang de victorieux, en bon québécois? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Vous êtes né nouveau. Et la Bible dit que vous triomphez du monde et vous êtes dans la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes dans la foi. Là, ça, c'est ce que Dieu dit à votre sujet. L'avez-vous lu dans votre Bible? Vous l'avez lu? Gloire à Dieu. Bon. Dieu nous appelle véritablement à devenir des personnes de foi. Dieu vous appelle à être des personnes de foi. Amen. Pourquoi? Bien, il y a plein de raisons. On pourrait dire, oui, mais il y a tellement de grandes choses qu'on peut recevoir de Dieu si nous marchons dans la foi. Mais au-delà de ces choses-là, la raison pour laquelle nous avons besoin d'être des personnes de foi, c'est parce que c'est la façon qu'on va plaire à Dieu. Amen. Je vais vous inviter à venir avec moi dans Hébreux 11, verset 6. Même si vous dites, ben moi, là, j'ai jamais rien reçu de Dieu autre que le pardon de mes péchés. Et je ne sais pas si je vais vivre quelque chose un jour avec Dieu. Je peux vous dire aujourd'hui, si vous prenez le temps et dire, si c'est écrit dans la parole de Dieu que je dois être une personne de foi, pour cette seule raison, cette simple raison, c'est assez, ça devrait être assez. Dans Hébreux 11, 6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Je vais prendre le temps parce que vous avez besoin de comprendre ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, vous devez croire Dieu. Vous devez être une personne de foi. Amen. Une personne de foi, c'est une personne qui se ne laisse pas influencer par les circonstances de la vie. Cette personne-là ne se laisse pas influencer par les choses qu'elle voit avec ses yeux naturels. C'est une personne qui croit Dieu, peu importe les circonstances de la vie. C'est une personne de la foi. Et Dieu vous appelle à devenir des personnes de foi. Amen. Je peux vous dire, j'ai cru pour plein de choses avant de les voir. Et je les ai vues se manifester parce que j'ai cru avant de les voir. Mais trop de personnes disent, ben, je vais croire quand je vais voir. Mais ça, c'est anti-biblique parce que si on veut faire plaisir à Dieu, on veut être agréable à Dieu, on doit croire la parole de Dieu avant de la voir. Amen. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, dans Romains 10, verset 17, venez avec moi. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit, un verset que vous connaissez bien. Romains chapitre 10 et le verset 17. Un autre verset super important. Donc, on a établi ce matin que c'est important pour nous d'être des personnes de foi. D'être des personnes de foi, absolument, c'est important. On n'a pas le luxe ce matin de dire, bien, moi, je vais raisonner ma foi, je vais vivre selon ma tête si je vois des choses. Si je ne vois pas des choses, je ne croirai pas. Si je vois des choses, je vais croire. Parce que Dieu nous appelle à être fondés dans la parole de Dieu et non sur l'expérience des hommes ou des femmes. Dans Romains 10, verset 17, ça nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Des fois, on va entendre les gens prier pour la foi. « Seigneur, donne-moi la foi. » Ne priez pas pour ça. Ne priez pas que Dieu vous donne la foi. Parce que vous avez déjà la foi, vous avez reçu une mesure de foi, et de toute façon, le développement de votre foi ne vient pas du tout en priant. Votre foi ne peut pas se développer en priant. Votre foi vient exclusivement en entendant la parole de Dieu entrer dans vos oreilles, et quand vous entendez la parole de Dieu, votre foi grandit. Amen. Donc, même des fois, on dit « Ah, ben c'était super, j'ai entendu un témoignage à l'église, quelqu'un a reçu une guérison, par exemple. » On entend, par exemple, notre sœur Audrey Mac qui nous a partagé comment, je pense, son dernier voyage, elle nous avait raconté comment elle avait été guérie du cancer. On a entendu son témoignage, puis on dit « Ah, ben gloire à Dieu, ça a bâti ma foi. » Faux! Ça ne vous a pas bâti votre foi. Non, vous êtes surpris. Ça vous a inspiré à croire la parole de Dieu. Qui seul vous bâtit la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Par contre, son témoignage vous inspire à placer vous aussi votre foi dans la parole de Dieu. Mais admettons, si notre sœur n'avait pas reçu son miracle, puis si vous dites, ben moi, ma foi est basée sur le miracle d'Audrey Mac, si elle n'avait pas reçu, vous n'auriez pas pu exercer votre foi pour votre propre miracle. Amen. Parce que votre foi était dépendante sur une personne. Donc, comprenez ceci, puis c'est une leçon de vie qu'on a tous besoin de saisir. Ma foi doit être exclusivement sur la parole de Dieu. Exclusivement. Moi, j'étais dans des pays où j'ai vu des miracles instantanés. Mais je croyais avant de les voir. Je croyais que j'étais pour voir des miracles avant de les voir. Mais admettons, comme je suis dans une réunion, on prie pour quelqu'un de malade et puis la personne n'est pas guérie. Si ma foi dépend de cette réponse-là ou la manifestation de la guérison dans cette réunion-là, j'ai une foi qui va avoir une mauvaise fondation parce que ma foi va dépendre de la foi d'une autre personne. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Ma foi ne peut pas dépendre de la foi de quelqu'un d'autre parce que si la personne reçoit, là, je peux croire puis dire « Dieu agit, Dieu est vivant, gloire à Dieu, alléluia ». Mais si la personne ne reçoit pas, là, je peux dire « Ah, mais Dieu ne guérit pas ». Et là, je peux commencer à inventer toutes sortes de théologies que des fois Dieu veut qu'on soit malade ou je peux avoir toutes sortes de pensées erronées qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Donc, ma foi doit être solidement établie sur la parole de Dieu et sur la parole de Dieu exclusivement. Que je vois des miracles, que je n'en vois pas, ça ne change rien parce que Dieu le dit. Amen. Vous me suivez ce matin? J'étais en Haïti, j'ai vu un homme qui était aveugle et quand il a reçu la prière au nom de Jésus, il s'est mis à voir. Ça l'a inspiré ma foi à l'âge de 17 ans où j'ai pu dire « Oh, mon Dieu n'a pas perdu de force, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc, la Bible a été confirmée par les miracles, mais ma foi n'est pas basée là-dessus. Amen? C'est très important. Dites « Je suis une personne de foi. Je suis une personne de la parole. » Amen. Si vous le croyez, vous êtes vraiment une personne de la parole, vous avez la fondation parfaite pour votre vie chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on se réjouit quand on voit des miracles, mais notre foi n'est pas fondée là-dessus. Amen. Bon, gloire à Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, on va aller dans Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Quand je lis ce verset-là, dans cette version Bible du Sommeur, je pense au pasteur Alain Patrick. Parce qu'il dit ici, dans Marc 11, verset 23, dans la Bible du Sommeur. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Pasteur René Patrick disait toujours ça, je vous l'assure. Oui, je vous l'assure. Ici, on vient de voir jusqu'à présent, nous sommes appelés à des personnes de foi. Des personnes de foi, c'est des gens qui ont un réflexe d'aller voir ce que la parole de Dieu nous dit concernant une situation précise. Amen. Bon. Mais là, Dieu nous appelle à activer la foi qu'il nous a donnée. Vous êtes la personne responsable pour votre propre vie. Vous devez savoir comment activer cette foi-là que Dieu vous a donnée. Il n'y a personne d'autre au monde qui peut l'activer pour vous. Vous êtes la personne. Vous allumez la switch. Je ne sais pas comment dire en français. On, off. Communicateur, quelque chose. Bon. Interrupteur, voilà. Hallelujah. Vous êtes la personne, vous mettez on, off. OK? On, off. Plus facile. Bon, Marc 11, verset 23. Aujourd'hui, je suis convaincu au nom de Jésus, vous recevez des choses que vous avez déjà saisies mentalement, mais qui vont descendre dans votre cœur. aujourd'hui. Le pasteur Alain Patrick me disait, dans son église pendant un temps, il priait pour des gens, il a prêché pendant des années de temps sur la guérison, il prêchait, puis il n'y avait rien qui se passait dans son église. Puis après un bout de temps, ça le décourageait un peu, puis il dit, mais c'est bizarre parce qu'il allait ailleurs, puis il y avait plein de miracles. Mais comment ça dans son église? Puis il a réalisé que les gens étaient trop familiers avec son ministère. Il dit, les gens étaient familiers avec l'onction sur ma vie. Puis une fois, il a prêché, puis il dit, je refuse que vous soyez familiers avec mon onction, que l'onction que Dieu m'a donnée. Il dit, je refuse au nom de Jésus. Parce qu'être familier, ça veut dire, bien, je connais bien. Les gens étaient familiers avec Jésus même. Saviez-vous ça? Ah, c'est fils du charpentier. C'est qui ça? Et quand on est trop familier, même dans notre maison, des fois, on pense qu'on ne peut pas recevoir de la personne. Et puis, le pasteur Alain Patrick Tsengue, il y avait une femme dans son église qui était quadriplégique, qui était paralysée totalement du cou jusqu'en bas. Il a prié pour elle. Pendant des années, ça donnait rien. Mais un jour, il a prié pour elle, puis elle a été totalement guérie. Parce que l'onction de Dieu, c'est une onction parfaite qui travaille si on reçoit. Mais peu importe la situation, ne devenez jamais familier avec l'onction de Dieu. Mais recevez, peu importe. C'est une chose super importante. Comment ça quand, admettons, on peut se promener. Moi, j'étais dans d'autres églises, évidemment, pas seulement à EVQ, et les gens reçoivent comme ça. Mais ici, c'est plus difficile parce que vous êtes familier. C'est ça que ça veut dire. Parce que vous êtes familier, vous avez du mal à recevoir. Mais ça, c'est pas normal. Vous pouvez dire, ben, j'arrête d'être familier, puis dire que c'est impossible que dans mon église que je reçoive. Vous pouvez recevoir même ici, au Québec. Savez-vous ça? Vous pouvez recevoir au Québec. Amen. Vous pouvez recevoir au Québec. Vous n'êtes pas obligé de dire, ben là, faut faire venir un invité de l'Europe ou des États-Unis. Essayez de croire comme ça. Parce que les mêmes personnes avec qui on fait le ministère, ils vivent la même chose. Ils viennent ici, des miracles se produisent, ils retournent chez eux, il n'y a plus rien qui se passe. Parce qu'on pense toujours que c'est l'invité qui arrive. Notre invité, c'est Jésus. Celui qui fait les miracles, c'est pas notre soeur Audrey Mac, c'est pas pasteur Alain Patrick Tsengue, c'est Dieu qui fait tout ça. C'est pas nous autres. On est juste là pour être disponible, pour prier, puis relâcher notre foi. Mais il y a des blocages inutiles, des blocages. Il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur pour que je reçoive. Arrêtez de penser comme ça. Sinon, vous allez recevoir juste quelques visites par année où Dieu peut vous toucher. Mais si vous dites, non, Dieu peut me toucher chaque dimanche de ma vie, là, vous allez recevoir. Gloire à Dieu. OK, bon, je continue. Donc, Dieu nous appelle à activer notre foi. Marc 11, verset 23, dans la Bible du Sommeur, il est écrit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, dans Louis Seyon, c'est cette montagne, cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » Ce verset-là, c'est un verset révolutionnaire pour votre vie, et je vais le relire. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, ce problème, ça peut être une montagne spirituelle de dette, ça peut être une montagne spirituelle de maladie, ça peut être, peu importe la montagne qui est devant vous, peu importe la montagne, ça dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ce qui parle à ce problème, ça dit, soulève-toi et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant, en exerçant la foi ici, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. L'avez-vous compris ce matin? C'est-à-dire, mais en croyant que ce qu'il dit, dit. Si je crois que ce que je dis arrive, je vais le voir se réaliser. C'est ça que Jésus a dit dans ce passage-là. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Je vais le relire. Vraiment, je vous l'assure. Vous avez la police d'assurance de Jésus, là. Vraiment, je vous l'assure, je vous garantis. C'est ça qui est écrit. Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. La chose s'accomplira. Si je crois que j'ai besoin de me débarrasser de 25 000 $ de dette, bien j'ai besoin de commencer à parler à cette montagne de dette dans ma vie. Mais là, c'est ridicule de parler à une chose. Les gens dans le monde parlent constamment à des choses. Ils ont une crevaison, ils vont se mettre à sacrer et dire ce de pneus. N'est-ce pas? Les gens vont parler à des objets. Ils vont se frapper avec un marteau. Puis là, ils vont se frapper le doigt, Puis là, ils vont commencer à sacrer. Puis ce marteau, le marteau, il n'a rien à voir là-dedans. C'est la main qui a frappé avec le marteau qui est le problème, n'est-ce pas? Mais pourtant, on va parler au marteau, puis on va dire « pup, pup, pup » de marteau. Les gens ont beaucoup de facilité à maudire, à utiliser leurs paroles pour maudire, mais beaucoup de difficultés à utiliser leur bouche pour bénir. Mais Dieu vous appelle à bénir avec vos paroles, mais en même temps, si vous avez des obstacles dans vos vies, des problèmes qui sont là, comme des montagnes qui vous empêchent de voir plus loin, vous êtes appelé à parler, pas à propos de la montagne constamment. Il y a des gens qui vont juste nous décrire la montagne. La montagne est grande, la montagne est haute, la montagne a plein d'arbres dessus, il y a plein de roches sur cette montagne, et puis cette montagne est comme ci et comme ça, puis on va en parler à droite et à gauche. Constamment, on va parler de la montagne. Dieu ne nous dit pas de parler constamment de la montagne, il nous dit de parler à la montagne. Il y a une différence, frères et sœurs. Donc, il y a une montagne de dette, admettons. Bien, vous avez besoin d'être sérieux avec la parole de Dieu. Vous avez besoin de commencer à croire ce que Dieu a dit. Amen. Je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline de dette, parce qu'on ne parle pas juste des collines dans le naturel, là. On parle dans des termes spirituels. Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, je déclare la parole de Dieu que tous mes besoins, qu'il rencontre tous mes besoins. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Et maintenant, je m'oppose à cette montagne et je commande à cette montagne de dette. Tu dois quitter ma vie au nom de Jésus. C'est ça qu'on est censé faire. Mais en croyant ce qu'il dit va se réaliser, mais ça dit sans douter dans son cœur. Si vous essayez la confession, ça ne fonctionnera jamais pour vous. Essayez de confesser, ça ne marche pas. Ça prend une révélation de la part de Dieu et c'est pour ça, ce matin, vous avez besoin, au nom de Jésus, vous avez besoin de recevoir cette parole dans vos cœurs. Vous avez besoin d'une révélation. Dites, j'ai besoin d'une révélation qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est super important, frères et sœurs, parce que si vous recevez de l'Esprit de Dieu un réma ce matin sur ce passage-là, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Ça dit sans douter dans son cœur. Si vous êtes là et vous dites, je commande aux 25 000 $ de quitter ma vie, 25 000 $ de dette, admettons, si c'est ça votre problème. Si c'est la maladie, ça peut être la maladie. Changez ça pour ce que vous voulez, là. C'est le problème qui se dresse devant vous. Mais si vous doutez en le faisant, ça ne marche pas. Ça dit, le critère, ça dit sans douter. Sans douter. Il ne faut pas douter ce que Dieu a dit. Il faut croire la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sauf que là, je me suis rempli, mon cœur, l'homme intérieur est rempli de cette parole et je le sais dans mon cœur que c'est vrai. Je suis une personne de foi puis je sais que c'est vrai ce que Dieu a dit à mon sujet. Je suis convaincu que c'est vrai. Sauf que là, comme je suis convaincu dans mon cœur, je sais que mon Dieu ne me ment pas, là, je peux parler à cette montagne avec foi, sans douter. Là, je peux parler sans douter. Mais je ne peux pas parler sans douter si je ne l'ai pas descendu profondément dans mon cœur. Voyez-vous une différence ici? Vous allez essayer la confession, oubliez ça. La confession de la parole de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on essaie, c'est une chose qu'on vit. Amen. Gloire à Dieu. La question s'impose pour vous ce matin. Acceptez-vous ce matin d'être remis en question et de grandir ou voulez-vous rester comme vous êtes? Voulez-vous rester comme vous êtes? Parce que je ne vous dérangerai pas, là. Voulez-vous rester comme vous êtes? Puis dites, bien, j'ai compris ça. OK, super. Sauf que là, vous acceptez d'être remis en question. Je vais vous donner trois choses. En fait, même dans le tout, je parlais avec mon épouse, je rajoute une quatrième chose. Je vais commencer avec la quatrième chose. On va parler de quatre faux concepts de la confession qui vont vous nuire. Premièrement, je vais vous parler d'un concept où on veut déterminer la volonté de Dieu pour notre propre vie. Je décide, moi, là, je vais travailler chez IBM, admettons. Dieu ne me l'a pas dit, c'est pas écrit dans la parole, puis j'aurais dû peut-être prier une prière de consécration pour demander à Dieu, « Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que je travaille? » Admettons, OK? Je donne ça comme exemple, je n'irai pas travailler chez IBM, ne vous inquiétez de rien. Je donne ça comme illustration. Là, moi, je décide, c'est là où moi, je veux travailler. Je décide pour ma propre vie, je veux faire ça, puis peu importe ce que Dieu en dit, moi, c'est ça que je veux faire. Et là, je commence à déclarer, au nom de Jésus, je rentre chez IBM. Au nom de Jésus, j'ai la faveur. Au nom de Jésus. Là, je semble être dans la foi. Tout le monde pense que je suis dans la foi. Mais je ne suis pas dans la foi, je suis dans la présomption. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la Bible, ce que Dieu a dit. Amen. Là, moi, je peux savoir, admettons, j'ai pas d'emploi, j'ai besoin d'un travail. Bien, au nom de Jésus, je peux dire, Seigneur, tu me l'as montré. Dans les Proverbes, il y a plein de passages qui me disent que je ne dois pas être oisif, mais je dois travailler. C'est ça que c'est écrit dans la Bible. De travailler, je dois travailler. Seigneur, tu l'as dit, et je crois que tu vas me donner un emploi. Et au nom de Jésus, je commence à me positionner à la foi, et je crois, je te remercie, Seigneur Dieu, pour l'emploi que tu me donnes. Allez, là, je suis en train de prier d'une façon que Dieu peut honorer. Et là, je peux dire, Seigneur, montre-moi là où tu veux que je travaille. Et si Dieu me dit, je veux que tu travailles chez IBM, là, je peux m'accorder dans ma foi pour la volonté de Dieu. Voyez-vous, mais il y a des gens qui veulent faire à leur tête, « Seigneur, c'est ça que je veux, moi. Mon plan, c'est ceci. Mon plan, c'est ça. » Et viens le bénir. Oubliez ça. Oubliez ça, frères et sœurs. Dieu ne bénira pas votre plan. Dieu va bénir son plan pour votre vie. C'est à vous de découvrir le plan de Dieu pour votre vie et vous accorder avec le plan de Dieu et Dieu va bénir. Amen. Amen. Vous comprenez ce matin? Super important. Ça, c'est la première chose que je voulais voir avec vous. Deuxième chose, une compréhension religieuse de la confession. C'est une compréhension légaliste. Dites légaliste. La compréhension, vous avez entendu ce message-là et ce que je vous dis concernant la confession et le résultat, le résumé de tout ça, c'est que vous pensez, ben, j'ai pas le droit de dire ceci, j'ai pas le droit de dire ça. J'ai pas le droit de dire quand je suis malade, j'ai pas le droit de dire. Quand j'entends des gens penser comme ça, je suis triste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris. Quand je parle de la confession, de la parole de Dieu, je ne suis pas en train de dire vous n'avez pas le droit de dire quelque chose. Quand notre sœur Audrey Mac a été diagnostiquée avec le cancer, elle ne passait pas son temps à dire j'ai pas le cancer. C'est pas ça qu'elle faisait. Les gens pensaient ça, le message de la confession. Ça, c'est une interprétation légaliste religieuse. Je n'ai pas le droit de dire ceci, je n'ai pas le droit de dire cela. Écoutez bien, si là, vous éprouvez quelque chose dans votre corps et vous avez besoin de prière, vous pouvez nous appeler à l'église et dire, « Pasteur, en ce moment, je suis dans un combat contre telle affaire. Il y a telle chose qui m'attaque là, en ce moment. Admettons, c'est une grosse grippe. La grosse grippe vient m'attaquer. » OK. Sauf que là, admettons, vous pouvez discerner la montagne dans cette situation-là, c'est une grippe. Peut-être c'est un cancer. S'il y a un cancer qui vient vous attaquer, dites-nous-le. On veut savoir, on veut prier pour vous. Amen. La confession, ce n'est pas une négation. C'est pas ça la confession. C'est pas une négation de l'attaque. La confession, c'est le privilège de déclarer la bénédiction dans la situation. Voyez-vous la différence? Il y a des gens qui pensent, « Ah, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit. » Ils n'ont rien compris. C'est pas que t'as pas le droit de dire ça, c'est que tu as le privilège de dire la vérité, pas juste parler de la réalité. Voyez-vous la différence, frères et sœurs? Il y a une grosse différence. Il y en a qui disent, « Je peux pas dire la réalité, je peux pas dire la réalité. » C'est pas que t'as pas le droit de dire la réalité, c'est que tu veux dire la vérité. C'est que la vérité s'impose sur la réalité et la réalité va changer par la vérité de la parole de Dieu qui est confessée de votre bouche. Parce que quand vous confessez cette parole-là, c'est une parole puissante qui détruit la réalité de votre vie. C'est ça la différence. Donc, enlevez ça de votre tête. J'ai pas le droit de dire ici, j'ai pas le droit de... C'est pas ça, pantoute l'affaire. C'est pas j'ai pas le droit, c'est que j'ai le privilège. Dites privilège. De dire la vérité sur moi-même. Dans la Bible, ça ne dit pas « faites semblant qu'il n'y a pas de montagne ». S'il y a une montagne, faites semblant qu'elle n'est pas là. Faites semblant qu'elle n'est pas là. C'est pas ça que ça dit. Non, ça dit « parler à la montagne ». Parler à la montagne, c'est ça qu'on est supposé de faire. Il y a un cancer qui vient attaquer quelqu'un. Mais au nom de Jésus, je m'oppose à ce cancer-là et on va vous appuyer en déclarant que ce cancer-là meurt au nom de Jésus, à la racine. Voyez-vous une différence là-dedans? Amen. OK, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Troisième chose. Une compréhension tordue sur la confession. OK, c'est... Je pense que je l'ai déjà dit, finalement. Je l'ai tout dit. Gloire à Dieu. Alléluia. OK. Je l'ai mis deux en un. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, ça va plus vite. On saute une page. Non, c'est une joke. OK, une autre compréhension populaire, mais fausse. C'est ceci. C'est que l'intention de mes paroles, c'est ce qui compte. L'intention de mon cœur, c'est ce qui compte quand je parle. Je veux vous expliquer, je veux vous aider au nom de Jésus. Bon, premièrement, le pasteur Yonggi Cho, vous connaissez ce petit pasteur-là?
Oui.
Pasteur de la plus grande église au monde. Il est allé à l'hôpital, puis il a parlé avec un médecin, puis le médecin lui a dit, on vient d'avoir une découverte. Avant que les gens passent en chirurgie, on leur dit de renverser les paroles négatives qu'ils ont dites sur eux-mêmes. Par exemple, la personne se sent fatiguée, la personne se sent vraiment malade, se sent comme ci, comme ça. On leur dit, juste avant de passer dans l'opération, ne dites pas ça, renversez ces paroles-là et dites « je suis fort ». Puis c'est une découverte récente scientifique. C'est nouveau. Quelle révélation. Et là, le pasteur Yang Gicho, il dit « je savais ». Vous savez? Il dit « oui, je savais ». Mais c'est une nouvelle découverte, c'est nouveau là, comme révélation là, scientifique. Je savais. Il dit « comment vous le savez? » Docteur Jacques. Docteur Jacques, Nouveau Testament. C'est quelque chose qui a fonctionné dans la vie du pasteur Yang Gicho que je vais vous enseigner ce matin. Vous pouvez attendre que pasteur Yang Gicho vienne vous le dire, a vécu pour croire ou vous pouvez me croire. Ici, vous voyez quelque chose de très chic. C'est nos meilleurs plats à la maison. C'est pas vrai. Ziploc. Wow! Ceci va vous servir d'illustration éternelle. Jusque dans la Nouvelle Jérusalem, quand vous allez m'inviter à manger chez vous, vous avez sorti ces plats-là. Vous avez dit, un jour, pasteur, je me souviens, tu m'avais montré un ziploc. Ceci représente votre parole. Un mot. OK? Ce que vous mettez dedans, un mot, c'est un contenant. Un récipient spirituel. Chaque parole qui sort de votre bouche, c'est comme une brique même dans votre vie. Et c'est avec ces mots-là que vous allez bâtir votre vie. Puis, je sais que vous ne me croyez pas, mais écoutez, je vais vous expliquer. Parce que des fois, on pense, bien, c'est l'intention qui compte. Peu importe ce que j'avais dans le cœur, c'est ça qui compte. OK? Mais écoutez bien ceci. On doit avoir des paroles de foi, dans le sens, on croit ce que Dieu a dit. Amen, c'est sûr. Mais comprenez que quand on marche dans le monde dans lequel nous vivons, nous marchons dans un monde spirituel. Et ce n'est pas juste Dieu qui nous entend, qui connaît notre cœur. Comprenez ceci. Oui, Dieu connaît mon cœur, mais Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche. Peut-être que vous allez dire une niaiserie, puis il n'y a pas aucun démon qui va l'entendre, puis ça ne changera rien, puis ça tombe à l'eau. Ça ne veut pas dire que ça va ouvrir une porte nécessairement. Quand on peut dire des paroles comme ça, il n'y a pas un démon qui l'a saisi. Mais moi, ce que je veux faire dans ma vie, c'est m'éloigner totalement des paroles qui viennent du royaume des ténèbres. Pourquoi? Totalement parce que j'ai appris ma leçon. Je vais vous expliquer une des leçons que j'ai apprises. Pendant un an, on faisait des traitements sur le pied de ma Floramé, ma fille, qui avait des verrues. Mais son pied était absolument rempli de verrues, un seul pied rempli. C'était horrifique, c'était terrible. Peut-être vous connaissez c'est quoi, mais c'était pas juste deux, trois, c'était le pied entier qui était comme recouvert, puis elle en pleurait, elle avait honte, elle trouvait ça dommage, je comprends pas. On mettait des traitements, on priait, on faisait ce qu'on savait faire. Puis un jour, j'étais dans mon auto, je m'en allais, je me souviens même de l'image, je m'en allais au gym, puis j'ai dit « Seigneur, je comprends pas, j'ai prié, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Comment ça? Floramé, elle a tout ça sous ses pieds, puis j'ai prié, on a confessé, tout ça. » Le Seigneur me dit « Tu sais, tu te rappelles quand tu dis « Satan est sous mes pieds? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Dis plus ça. » Là, j'ai dit « Hein? Dis plus ça, Satan est sous mes pieds. » Je pensais que c'était un décret de foi. Mon intention de cœur, c'était comme ça. Mais j'ai compris. Dieu m'a juste dit, dis plus ça. Il ne m'a pas donné d'explication plus. J'en ai pas plus pour vous ce matin. Parce qu'il y a même un chant, je suis allé dans le camp de l'ennemi, j'ai repris ce qui m'a volé, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Mais j'ai compris, dis pas ça. Puis Seigneur, j'ai dit, j'annule ces paroles-là au nom de Jésus, j'annule ça. Si j'ai pu ouvrir une porte qui a permis ça à ma petite Floramé de recevoir des verrues, puis j'ai dit, au nom de Jésus, j'annule. Satan n'est même pas sous mes pieds, il n'est même pas dans ma vie, pas du tout. Là. Il n'est pas nulle part proche de moi, il est complètement chassé au nom de Jésus. Le lendemain matin, Floramé se réveille, son pied totalement guéri. Totalement, du jour au lendemain, je peux vous dire, on a fait des traitements de pied, puis les produits, c'est fatigant de faire des traitements de moi comme ça, là. Mais on faisait ça, puis je peux vous dire, c'était pas deux, trois, c'était au complet, le pied partout, puis elle en pleurait, puis elle avait honte, puis ça faisait mal, puis du jour au lendemain, j'ai dit, Seigneur, j'annule ces paroles-là, puis le lendemain matin, son pied totalement restauré, une peau normale comme ça ne l'avait jamais eu. Puis ma petite Floramé, là, elle a su qu'elle a vécu un miracle. Pour vous, peut-être, c'est pas important. Mais peu importe l'intention de votre cœur quand vous le dites, pensez, oui, Dieu connaît notre cœur, mais Satan, lui, là, il va chercher une porte d'entrée. Sauf que moi, ce que j'ai décidé avec ma vie, là, je veux fermer toutes les portes. Chaque parole, c'est un contenant pour bâtir ma vie. Chaque parole de ma vie, c'est sûr, C'est sûr et certain. Sauf que si moi je veux, parce que je vais vous le prouver bibliquement, parce que si vous ne me croyez pas, vous devez me croire, frères et sœurs, parce que ce n'est pas ma parole, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans Matthieu 12, 36, je vais vous donner un autre petit verset, ça dit, « Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée, ou toute parole vaine ou sans efficacité. » On va rendre compte pour chacune de nos paroles. C'est ça que ça dit dans le texte, Matthieu 12, 36. Dieu nous dit, on va rendre compte pour chaque parole, chaque niaiserie, toutes ces choses-là. Le croyez-vous ce matin? C'est ça que la Bible nous dit. Ça veut dire, on doit changer notre façon de parler. Puis, vous savez, ça fait proche 6 ans que cette église est ouverte. En septembre, ça va faire 6 ans qu'on est là. Et plusieurs d'entre vous, vous l'avez entendu 10 000 fois, mais aujourd'hui, c'est votre journée de révélation. Aujourd'hui, c'est votre journée là, où vous allez capter des choses, puis vous allez cesser de penser que le pasteur dit « vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça ». C'est pas ça! J'aimerais ça comme... C'est pas ça que j'essaie d'enseigner! Comprenez ce que je vous dis, c'est que vous avez le privilège de vous bénir avec vos paroles. Vous avez le privilège de déclarer. Savez-vous que Dieu a créé les êtres humains avec la possibilité de parler? Savez-vous que les chiens ne parlent pas? Les petits chats, ils peuvent miauler, mais ils ne parlent pas. Ils n'ont pas de conversation avec nous. Nous sommes des créatures que Dieu a créées avec l'autorité de créer avec nos paroles. Vous lirez dans Hébreux 11, je n'ai pas le temps ce matin, mais Dieu a créé l'univers par sa parole. En déclarant une chose, la chose a existé. Abraham, vous connaissez le personnage d'Abraham? Abraham, allez dans Romains 4, on va juste aller là, je vais juste montrer. Romains 4, verset 17. Je vais vous montrer une chose ici. Romains 4, 17. Ici, Dieu parle à Abraham, qui n'a pas d'enfant, qui est super vieux, puis il change son nom. Il dit au verset 17, Romains 4, 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Pas une grande famille de 10 enfants, là, mais il dit « d'un père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point. Les choses qui ne sont point dans votre réalité, les choses qui ne sont pas réelles pour vous en ce moment, et Dieu qui appelle la vie aux morts qui donne, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et puis Dieu a décidé, Abraham va devenir Abraham et père d'une multitude. Puis il a changé son nom avant que ce soit une réalité. C'est pour ça qu'on peut commencer à dire, même si dans les symptômes de votre vie, peut-être c'est l'endettement. Mais vous pouvez commencer à dire, au nom de Jésus, moi je parle à cette montagne de dette et au nom de Jésus, moi je vais premièrement mettre ma vie en règle, je vais arrêter de m'endetter, je vais me repentir, n'est-ce pas? Amen, je vais me repentir de ça, admettons. Ou vous pouvez dire, je vais établir un budget, je vais faire les choses que j'ai à faire pour mettre ma vie en règle et je vais remettre à Dieu ce qui lui appartient, je vais arrêter d'être un voleur, comme la Bible dit dans Malachie, je vais donner ma dîme à Dieu, je vais honorer Dieu. Bon, là je fais les choses pratiques, là. Juste les choses pratiques. Et là, je commence à déclarer, là j'ai de l'autorité derrière mes paroles, parce que je ne suis pas un désobéissant, je suis un chrétien dans l'intégrité. Amen? Je suis dans l'intégrité et j'ai de l'autorité. Et là, je peux parler à cette montagne-là et elle va disparaître de ma vie. Je vais parler à cette montagne-là. Peut-être que c'est la maladie. Au nom de Jésus, je parle à cette montagne-là. Et là, j'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est pour ça là, que je peux dire, dans la réalité, mettons, il y a un malaise, mais dans la vérité de la parole de Dieu, par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri. Et là, ce que vous avez besoin de faire, c'est encourager les frères et les sœurs qui disent ça. J'ai eu le témoignage de notre sœur Annabelle à la prière matinale. Elle nous a partagé un témoignage. Pendant un temps, sa petite Eden avait de l'eczéma. Et puis, pendant un an ou deux, je ne sais pas, pasteur Jérémy, il est où là? Un an ou deux, j'ai demandé à Annabelle si je pouvais partager, puis elle a dit oui. Pendant un an ou deux, elle avait de l'eczéma, puis priait. Puis là, il y avait des gens qui posaient toujours la question, « Mais qu'est-ce qu'elle a, la petite Eden? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? » Puis elle dit des chrétiens constamment, « Mais qu'est-ce qu'elle a? » Toujours, « Dis-nous, là, qu'est-ce qu'elle a? » Puis Annabelle dit, « Ben nous, on est dans la foi pour sa guérison. » de l'eczéma, je ne sais pas trop. Mais elle dit, c'était plus dur parce que des fois, les gens sont toujours là pour nous tirer les verres du nez, pour nous faire déclarer le contraire. S'il y a quelqu'un qui se bat dans la foi là, pour, contre la maladie, est-ce qu'on peut s'accorder au moins ici? Est-ce qu'on peut au moins s'accorder ici? Amen. Puis dire, bon, là, il y a un défi, une montagne, mais au nom de Jésus, moi, je vais t'appuyer dans ma foi, puis moi aussi, je vais croire, je vais déclarer sous ta tête, au nom de Jésus, tu es guéri de ça. Est-ce qu'on peut s'accorder? Ça rendrait les affaires plus simples, en tout cas. Alléluia. OK, je continue. Amen. Alléluia. OK. Bon. C'est que ce matin, c'est pas vous déranger. Ce que je veux, ben oui, je vais vous déranger, mais pas pour vous nuire. Je vais vous déranger de cette mauvaise compréhension qu'on peut avoir pour arriver à une compréhension biblique. Pour vous, comme ça, vous allez savoir, chaque parole qui sort de ma bouche contient de la puissance. C'est des contenants. Imaginez, là, ça sort de ma bouche, des briques. Chaque parole qui sort comme ça, là, ça va établir ma destinée, ça va établir les fondements de ma vie. Chaque parole que je déclare. Ah, oh, je suis toujours pauvre. Je suis toujours pauvre, moi. J'écoutais le témoignage de Charles Capps. Il allait à la pêche. Et puis son ami avec lui disait, « Oh, toi, t'as toujours plein de poissons. Moi, j'attrape jamais rien. » Puis là, Charles Capps, lui, puis il avait toujours plein de poissons. Puis là, son ami, « Moi, j'ai jamais rien. Ça m'arrive pas. On dirait qu'ils sont toujours sur ton bord du bateau. » Il dit, « Ben, il dit, gars, on va changer de bord. » C'est OK. Là, les poissons rentraient tous dans son bateau, encore à Charles Capps, puis il a changé de bord pourtant, là. Puis il dit, « Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours toi. Je sais pas qu'est-ce que... » Il dit, « Ben, si t'arrêtais de dire que tu pognes jamais rien, peut-être tu pognerais quelque chose. » Mais il était toujours en train de dire, « Ben, moi, j'ai jamais rien, j'ai jamais rien. » Sa fille, Annette Capps, raconte une histoire aussi, est allée à la pêche. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle. Elle disait, « Here, fishy, fishy, here, fishy, fishy. » Puis là, ses amis disaient, « Qu'est-ce que tu fais là? J'appelle les poissons. » Vous savez, Dieu a donné l'autorité à l'homme dans le jardin d'Éden, sur toute créature. Sauf que là, elle dit, elle appelle les poissons, puis là, ses amis, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'appelle les poissons. Ils t'entendent pas. Here, fishy, fishy. Annette, puis les poissons arrivent, rentraient. Puis là, eux autres, coudon, ça marche, cette affaire-là. Eux autres aussi, here, fishy, fishy. Tout le monde commençait à le faire, puis il y avait plein de poissons. Ils ont compris, on a la puissance dans nos paroles si on croit. Si on croit pas, on verra rien. J'ai mon pasteur en Alberta disait, la confession, ça marche pour vous, si vous y croyez. Puis si vous ne croyez pas, ça marche pour vous aussi. Dans le sens que si vous dites « je ne l'ai pas », vous ne l'aurez pas. Hallelujah! Je ne l'aurai pas, ça ne marche pas. Amen, ça ne marche pas pour toi. Ça ne marche pas pour toi parce que tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Si tu ne crois pas, tu ne le vivras pas. Il faut que tu y crois. Faut que tu y crois. Sauf que si tu crois, ça va changer ta vie. OK. Là, je suis rendu où, là? OK. Là, une autre chose. Sauf que là, compréhension populaire, l'intention, là, ça ne change rien. C'est que peu importe les paroles qu'on déclare, que ce soit des paroles de foi. Puis là, si on a un combat, on ne fait pas la négation. Non, 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 j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'ai un besoin. Accordons-nous pour tel besoin. Je m'accorde. Là, là, on a besoin de vivre ça. Là. C'est ça qu'on a besoin de vivre. Ça veut dire, au lieu de dire, bien là, ça va de pire en pire, là, Seigneur, on a besoin que ça y aille mieux. Voyez-vous? Si vous êtes dans le déficit, au lieu de dire, oh mon Dieu, on va perdre la maison, là, je pense, on va faire faillite, là. Non, au nom de Jésus, là, on a besoin de Seigneur, une percée. Savez-vous si vous avez besoin de percer? Savez-vous ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin d'augmenter vos confessions positives. Moi, je vois des dépenses qui arrivent bientôt au mois de septembre. Je peux vous dire, là, je disais à ma femme, je dis, là, il faut qu'on augmente nos confessions. J'ai besoin d'augmenter mes confessions de foi. On est allé prendre une marche ensemble, puis ma femme et moi, on se parlait de notre niveau de confession, puis on a dit, on n'est pas des gens négatifs. Ça, c'est une chose, ça ne fait pas partie de notre vie. Mais Mathieu a dit, on a besoin d'augmenter nos confessions positives, par exemple. C'est vrai, puis j'ai dit, c'est vrai, on a besoin d'augmenter ça. J'ai besoin de faire l'exercice à chaque jour, puis commencer à déclarer les choses que Dieu m'a promis dans sa parole. Les choses que Dieu m'a promises. Amen. Faut le faire. Moi, je le vois dans ma propre vie. Je veux prendre plus de temps dans sa parole puis déclarer plus puis dire c'est écrit, il est écrit puis c'est ça qui m'appartient puis c'est ça que je vais vivre. Puis je le déclare au nom de Jésus. Ça arrive dans ma vie. Amen. OK. Mark Hankins a cité Smith Wigglesworth. Vous connaissez Smith Wigglesworth? Ressuscité quelques morts. Je me souviens plus combien de morts qu'il a ressuscité. Mais en tout cas, il y a un ministère très puissant. Il est décédé depuis longtemps. Mais cet homme-là a déclaré ses paroles suivantes. Il a dit la majorité des chrétiens ne reçoivent pas leurs miracles parce que les chrétiens, quand ils sont dans la tempête, c'est là où ils décident de bâtir un bateau de foi. Quand il y a une tempête, vous avez un mauvais rapport, cancer, vous entendez ça, mettons. Là, vous décidez, OK, là, on va voir ce que Dieu dit, là. Il dit, est-ce qu'il dit quelque chose là-dessus, là? Puis la santé. C'est plus dur de commencer à établir un fondement de foi quand vous avez un mauvais rapport. Dans une tempête, c'est plus dur. C'est pour ça que Smith Wigglesworth disait, la majorité des chrétiens meurent dans la tempête. La majorité des chrétiens meurent dans la tempête, mais vous pouvez quand même bâtir un bateau dans la tempête. Si vous avez un mauvais rapport, vous pouvez quand même bâtir. Mais si vous n'avez pas un mauvais rapport, bâtissez votre bateau de foi avant la tempête. Faites-le quand il fait beau soleil. Audrey Mac, notre soeur Audrey Mac, qui est venue prêcher, elle avait été formée pendant quelques années à se former vraiment dans la parole de guérison. Bon, c'était déposé dans son cœur, elle croyait dans la guérison. Et quand elle a reçu le mauvais rapport du cancer des os, elle savait quoi faire. La parole avait déjà été implantée dans son cœur. Donc, sa bouche a pu déclarer les hauts faits de Dieu. Elle a pu commencer à déclarer, non, je résiste cette maladie. Et finalement, vous savez, elle a été guérie. Ma femme Mathilde a reçu un mauvais rapport, mais elle n'avait pas été élevée avec les principes de foi de guérison comme vous avez l'opportunité aujourd'hui de recevoir. Puis elle est obligée de bâtir son bateau de foi en pleine tempête, mais elle l'a bâti quand même. Amen. Mais c'est plus dur. C'est plus dur quand vous êtes en pleine souffrance. Comme ma femme qui vivait comme des couteaux dans l'estomac, qu'elle avait mal. Puis là, qu'elle soit obligée de prendre la parole de Dieu puis dire, « Au nom de Jésus, je m'oppose à ces attaques-là. Au nom de Jésus, je vous lis. Au nom de Jésus, je déclare par ses meurtrissures, j'ai été guéri. » Ma femme va super bien en passant. Et elle a reçu un diagnostic incurable de la médecine, mais elle, vous savez, elle n'a pas le choix d'être dans la foi. Savez-vous pourquoi elle n'a pas le choix? Quand on est en pleine santé, vous avez le luxe de dire, « Ben moi, je crois pas là-dedans. Je crois pas là-dedans, moi, ces affaires de guérison. » Quand vous êtes en pleine santé, là, vous avez ce beau privilège-là. Mais c'est quand vous êtes attaqué puis vous avez mal, là, on dirait que vous allez en mourir. Là, vous vous tournez vers Dieu. Puis ma femme, quand ça va bien, là, elle passe son temps, je la vois, là, dans la parole, puis elle médite les versets de guérison. Puis toute sa vie, c'est la guérison. Pourquoi? Parce qu'elle a compris, Proverbe 4, verset 20 à 23, que c'est la santé pour tout son corps. Elle a compris que la parole de Dieu, c'est la santé, c'est ça qui la garde vivante. Amen. Hallelujah. Donc, ce que je veux vous dire, la majorité des chrétiens meurent dans la tempête, mais vous pouvez prendre la décision aujourd'hui. Je vais bâtir mon bateau de foi aujourd'hui avant la tempête. Amen. OK. Venez avec moi maintenant dans Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Là, je viens de vous dire des choses. Premièrement, l'appel à la vie de foi. Vous êtes appelé à la vie de foi. Deuxième chose, vous êtes appelé à l'activation de votre foi par votre parole, par vos paroles de foi. Quand on est un enfant de Dieu, nous avons l'autorité. La Bible nous dit que Satan ne peut pas nous nuire. Nous avons l'autorité sur lui. Gloire à Dieu. Donc, on peut déclarer la parole de Dieu et imposer la parole sur notre vie, sur la situation. Là, je vais vous lire un texte que vous connaissez mentalement. Mais aujourd'hui, je le déclare sous votre tête, vous allez recevoir spirituellement. Je le déclare sous votre tête, au nom de Jésus, vous allez recevoir dans votre esprit. Bon, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous allez manger les fruits de vos paroles. C'est ça que la Bible nous dit. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Avez-vous compris? Vous aurez à vous rassasier des fruits, dans votre vie, là, vous aurez à vous rassasier, là, des fruits que votre langue aura produits. Ce que vous dites, c'est ça que vous allez manger. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes des agriculteurs spirituels. Vous produisez constamment votre vie par votre parole. Vous prononcez des paroles et c'est ça que vous allez manger. C'est ça que la Bible dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Là, le mot pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot pouvoir en hébreu, c'est yad. Dites yad. Yad. Bon, yad, 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 hallelujah. Yad veut dire la main de l'homme. C'est ça que Dieu a décidé de mettre là. La vie et la mort sont dans la main de la langue. Dans la main de la langue. Combien d'entre vous, vous avez une main dans votre langue? Montrez-moi pas votre langue. Mais la Bible me dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la main de ma langue. En autre mot, ma langue, c'est ça qui va chercher ma provision de Dieu. Ma langue va aller chercher ce qui m'appartient en Dieu. Mais ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir, sont dans la main de ma langue.
Écoutez bien ceci. Puis ça dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais ça dit la mort et la vie. Pensez pas juste que vous allez chercher votre bénédiction avec votre langue. Vous pouvez aller chercher la malédiction aussi. Vous pouvez aller chercher tout ce qui va mal. J'aimais ça. On était au restaurant avec notre sœur Audrey Mac, puis elle disait pendant longtemps, elle était toujours là en train de dire, « Ah, oh, je suis confuse, j'entends pas Dieu. Moi, j'entends pas Dieu. Je comprends jamais. On dirait, Dieu me parle jamais. Dieu me parle pas. » Puis Dieu a dit, « Arrête de dire ça. Je te parle. C'est écrit dans la parole, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, tu es supposé de m'entendre. Arrête de le dire que tu m'entends pas, que tu es confuse. Arrête de dire ça. C'est pas vrai. » Dieu l'a repris, puis elle a arrêté de dire ça, puis elle a commencé à comprendre, puis à entendre Dieu. Alléluia, c'est bon, hein? Bon, OK. Sauf que là, le pouvoir ici, vous êtes des agriculteurs spirituels. Là, on va lire un texte dans Luc 6, 45. Vous allez voir ce verset-là d'une façon nouvelle que vous n'avez jamais vue, je crois, et vous allez comprendre ce que Dieu veut pour vous. Vous avez la puissance par la parole, parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous avez été transféré dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Je suis une nouvelle créature. Je suis un citoyen du ciel sur la terre en ce moment. Alléluia! Et moi, là, j'ai accès aux choses que le monde normal n'a pas. J'ai le droit à vivre une vie différente. Dites différente. Moi, là, je peux être totalement différent. Ben là, admettons, le marché est en déclin, mais ça n'a aucunement rapport avec ma vie. Ça n'a pas rapport avec ma vie. Oui, mais les choses vont en déclin, le marché économique, tout va mal, va de pire en pire. Pour moi, là, Dieu va toujours faire l'exception. Pour moi, Dieu fait l'exception parce que moi, je suis un citoyen du ciel, puis je ne suis pas affecté par le système de ce monde. Je vis dans une autre dimension parce que je déclare ce que Dieu a dit sur ma vie. Ah, si seulement vous me croyez. Écoutez bien, Luc 6, 45. Je vais vous lire sans commentaire, puis après je vais vous commenter. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là, je vais vous lire avec commentaire. L'homme bon, c'est qui ça, l'homme bon? On dit tous, c'est nous autres. Amen. On pense que c'est nous autres. Dans le grec, c'est l'homme droit. L'homme droit, l'homme qui marche avec droiture. L'homme droit tire, je suis allé voir dans le grec, c'est le mot « amen ». Rappelez-vous, j'ai dit la langue, il y avait une main. L'homme droit ou bon amène de bonnes choses, en fait, je devrais pointer vers le bas, du bon trésor de son cœur. C'est quoi son cœur? C'est l'intérieur, le centre et le siège de la vie spirituelle. Et le méchant, oh ça c'est celui qui ne vient pas à un vécu. Ça c'est le méchant. Non, le méchant c'est celui, en grec, la définition de Strong's, celui qui est rempli de contrariété, apportant des difficultés et périls en ce qui concerne la foi chrétienne et la constance. Ça, c'est le méchant. C'est celui qui est rempli de contrariété. Dans Jacques 1,8, ça dit « L'homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, l'homme au cœur partagé, inconstant dans toutes ses entreprises. » C'est celui qui n'est jamais décidé. Une journée, il est dans la foi, une journée, il est dans le doute. Une journée, dans la foi, une journée, il est dans le doute. C'est ça, l'homme méchant, c'est ça que ça dit. L'homme bon ou droit amène les bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant, celui rempli de contrariété, puis là, apportant des difficultés et périls en ce qui concerne la foi chrétienne et la constance, tire encore, il amène de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il y a plein de choses en lui, il n'a pas déposé la parole de Dieu, il n'y a pas de conviction de Dieu, c'est plein de doutes. Il tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si seulement vous faites réécouter le CD, là, ça va vous aider. Si vous ne prenez pas la peine de déposer la parole de Dieu concernant votre besoin, vous êtes là, qu'est-ce qui va sortir? C'est les choses normales. La vie normale, comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde qui vivent normalement. Vous allez être conditionné par ce qui est normal. Parce que vous avez dit, ben là, mon voisin vient de perdre sa maison parce que là, l'économie, ça s'en va de bas en bas. Ils viennent de perdre leur travail. Ben moi aussi, je vais perdre mon travail sûrement là, parce que là, regarde, tout le monde perd leur job de Saint-Cy. Les maisons, les gens perdent leur maison. Je risque de perdre ma maison. Puis là, ma voisine est tombée malade en plus. C'est des mots qui courent. Puis je risque de tomber malade en plus parce que là, regarde, c'est normal. C'est normal. Êtes-vous normal? Moi, je suis. Si vous êtes normal, moi, je ne suis pas normal. Je ne veux pas l'être normal. Je ne veux pas être normal. Moi, j'ai le droit à vivre autre chose totalement différente. OK. Alléluia. Bon, sauf que là, ça nous dit ici, si seulement on vous pouvait croire, pouvez-vous croire la Bible? C'est pas votre pasteur qui vous le dit, c'est la Bible qui vous dit. L'homme bon, il amène des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Ça veut dire, si je dépose la parole de guérison, si j'ai besoin d'une guérison, si j'ai besoin de la prospérité de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de vivre une percée financière, je vais méditer sur la parole de Dieu. Puis là, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? Ça dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur, l'homme intérieur, le siège, c'est-à-dire le siège de la vie spirituelle, si là c'est rempli de doutes, rempli des choses de ce monde, c'est ça qui va sortir de votre bouche, c'est le doute. Puis là, en plus, ce doute-là va sortir de votre bouche et c'est une main qui va aller chercher la malédiction. Et vous allez bâtir votre vie de même. Puis là, vous êtes là, puis vous dites, mais je comprends pas, je vais à l'Église de la Victoire du Québec, j'entends des messages de foi, puis ça ne marche pas, cette affaire-là. Ça ne marche pas, je l'ai essayé. C'était ça votre problème. Vous l'avez essayé. On n'essaye pas Dieu. Ce n'est pas un T-shirt qu'on essaye. Dieu nous révolutionne. C'est qu'on commence à croire ce que Dieu a dit, puis on est des gens de foi, puis on dit, Dieu, tu l'as dit, c'est assez pour moi. Tu l'as dit, c'est ça que je vais méditer. Je ne méditerai pas sur plein d'autres choses. Je vais méditer ce que Dieu a dit à mon sujet. Et là, je vais laisser la parole descendre en moi, comme ça, avoir fait partie de qui je suis. Là. Puis là, quand il y a un vent contraire, qu'est-ce qui va sortir de moi? Ça ne sera pas des malédictions. Oh ouais, Dieu m'abandonne, Dieu ne fera jamais rien pour moi. Moi, ça va aller de pire en pire. Oh, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Non, ça va être la parole de foi qui va sortir de ma bouche. Puis là, je vais chercher la bénédiction. Pendant que tout le monde sont maudits, moi, je suis béni. Parce que j'ai cru Dieu. Amen. OK. Alléluia. OK. Jacques 3:4, c'est dit, « Voici même les navires. » Les navires, un gros bateau de croisière. Là. « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. » sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Là, ça vient de passer par-dessus votre tête, peut-être. Même les navires, imaginez un gros bateau de croisière, là. Gros bateau. Ils sont si grands, mais sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Le pilote du bateau décide où va aller le gros bateau par le petit gouvernail. C'est quoi ce gouvernail-là? Dans le contexte, vous le lirez au complet, c'est tout un passage sur la langue qui nous dit « Votre langue détermine où vous irez. Votre langue détermine le cours de votre vie. Vous dites toujours le contraire de ce que Dieu dit, vous allez vivre le contraire de ce que Dieu dit à votre sujet. Mais si vous commencez à dire « Comme Dieu dit sur votre vie, les promesses de Dieu, vous allez diriger, vous le pilote de votre vie, rempli du Saint-Esprit, vous allez diriger votre vie selon Dieu. » Qui a l'autorité de bénir? Vous avez l'autorité de vous bénir par vos paroles? Vous avez l'autorité de le faire? Satan, là, je l'ai dit de l'autre côté, j'ai dit même à l'école de guérison cette semaine, peu importe, Satan là, n'est pas concerné par ce que vous croyez. Il n'est pas concerné par ça, lui. Satan, lui, est concerné par ce que vous déclarez. Parce que ce que vous déclarez, c'est ça qui va lui ouvrir la porte ou va lui fermer la porte. Vous faites croire, mais moi, je crois là-dedans, en guérison. Moi, je crois que Dieu prend soin de tous mes besoins, de sa richesse avec l'or. Je crois toutes ces choses-là, sauf que je ne le dis jamais. Je ne le dis jamais parce que c'est dans mon cœur. Quand j'ai le temps de louer mon Dieu à EVQ, je vais me chercher une chaise. Là. Il n'y en a pas de chaise ici. Fais semblant, je t'accroche de même. Allez, pasteur Jean, ah oui, chante. Ah, ça finit-tu bientôt? Là? Ça va bientôt, les annonces? Là? Satan, là, vous ne le dérangez pas du tout. Vous ne dérangez pas. Mais vous venez à l'église. Puis là, il y a un chant. Je ne sais pas un chant qu'on a chanté, là, mais Dieu est bon. On va dire Dieu est bon. Vous avez besoin de la bonté de Dieu dans votre vie. Puis là, vous êtes à l'église, là, puis vous levez de votre chaise, puis vous commencez à déclarer, à ouvrir la bouche. Dieu est bon. Puis je lève mes mains en plus. Moi, je suis radical. Houhou! Hey, je le ferais chez les Canadiennes, mettons, mais pour Jésus, je ne peux pas le faire parce que je suis trop timide, moi. Non, 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 oublie ça, là. Ça n'a pas rapport. Non, je suis à l'église. Dieu est bon. Moi, je loue mon Dieu. Dieu est bon. Puis je le déclare avec ma bouche et je reçois, puis je m'en vais chercher la bonté de Dieu. Je l'attire dans ma vie. Puis je le dis. Je ne suis pas passif. Le diable, là, les chrétiens passifs qui font rien, qui déclarent rien, il n'y a rien qui sort de leur bouche. Ils croient, c'est tout en dedans. Mais tout en dedans, là, ça ne change rien. Vous avez besoin d'extérioriser un petit peu qu'est-ce que vous avez en dedans. Déposer la parole, déclarer la parole, puis commencer à faire des ravages dans le royaume de l'ennemi. Puis il va voir, là, hey, coudonc, je ne suis pas capable de l'avoir, ce Joel Spinks-là. À chaque fois, j'envoie des coups, des affaires, j'essaie de l'attaquer. Lui, il me revire ça d'abord, puis il me dit le contraire de ce que je lui dis. Je l'attaque avec une petite maladie. Oh, par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri. Puis je m'oppose à cette chose-là. Puis c'est pas ça qu'il veut entendre, là. Mais si vous êtes silencieux, là, vous ne dérangez pas le royaume des ténèbres. Voulez-vous le déranger? Vous avez besoin de commencer à déclarer. Puis vous pouvez dire, ça, je le dis par en dedans, mais le diable, il n'est pas en dedans de vous. Il n'est pas en dedans de vous, le diable. Saviez-vous ça? Il n'est pas en vous. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan. Dans 2 Corinthiens 4,4, ça dit, c'est le Dieu de ce monde. Satan est dans le monde, mais qui est en vous? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit veut parler. Il veut commencer à déclarer des choses sur votre vie par votre bouche. Vous avez commencé à dire tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Je continue parce qu'il faut que je finisse un jour. OK. Donc, je vais vous donner un modèle de cette révélation. Quand j'étais en croisière cette année, j'étais en vacances, puis je lisais un livre et je ne savais pas, mais le frère Charles Capps, qui est un prédicateur qui a passé sa vie à enseigner sur la puissance de la parole. Vous savez, on a des ministères différents. Il y en a qui se concentrent sur la guérison, d'autres c'est sur la croissance spirituelle dans les finances, admettons. Il y en a d'autres, c'est peut-être sur l'eschatologie. Bon, il y a des gens comme ça qui vont avoir des spécialités. Lui, sa spécialité dans la parole de Dieu, c'était au niveau de la confession de la parole. Comment confesser. Puis je lisais son livre pendant que j'étais en voyage. Et je ne savais pas, mais il venait tout juste de décéder. Un homme de 80 ans, un homme de foi, en parfaite santé. En parfaite santé. Et là, le frère Capps a dit à sa fille, Annette, le vendredi le 21 février 2014, cette année, il a dit à sa fille, il dit, dans 3 jours, je rentre à la maison. Je vais mourir. Vendredi, il dit ça à sa fille. Dans 3 jours, je rentre à la maison. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu va nous rassasier de longs jours. OK? Puis lui, il était rassasié. Il avait fait son ministère. Il était comme content. Gloire à Dieu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis rassasié, puis là, je veux rentrer. Est-ce qu'il était malade? Non, il n'était pas malade. Est-ce qu'on est censé mourir malade? Bien, tout le monde le dit. Hein? C'est normal, ça, mourir malade. On est chassé de notre corps, comme si on est chassé de notre appartement qu'on ne pouvait pas payer. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. On n'est pas obligé de chasser. Ah ouais, va-t'en, là. Non. Lui, il a décidé, dans 3 jours, je rentre à la maison. Puis il a dit à sa fille, là, organise-moi un petit party. Je vais inviter toute la famille, mes amis. Je vais leur dire au revoir. Samedi soir, le 15 février, il reçoit ses frères, ses sœurs, tout le monde, la famille, tout le monde, puis il fait ses au revoir. Puis il dit, je rentre à la maison demain. Puis c'est spécial, hein? Demain soir, je rentre à la maison. Je m'en vais au ciel, je déménage au ciel. Je suis rassasié, je suis content, puis j'ai une belle vie, mais gloire à Dieu, là, c'est le temps que je rentre. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je m'en vais au ciel. Et puis là, dimanche au soir, sûrement il embrasse sa fille. J'ai pas vu ça, hein, j'étais pas là. J'ai entendu l'histoire. Et puis, vous pouvez aller voir sur son site, charlescaps.com. Il raconte toute l'histoire. Sa fille raconte l'histoire. Et puis, dimanche soir, il va se coucher. Lundi matin, il n'était plus là. Il était déjà déménagé au ciel. Il avait dit, mais toute sa vie, il a vécu de même. Il croyait ce qu'il disait, lui. C'est la différence entre essayer la confession qui ne marchera pas, parce que l'essai, ça ne marchera pas, parce que l'essai, ce n'est pas de la foi. L'essai, c'est parce que vous n'y croyez pas. On va voir si ça marche. Si ça marche, bien là, je vais y croire. Ça, ce n'est pas de la foi. Avez-vous vu la différence? Lui, il n'a pas essayé la confession. Il a dit, il croyait la parole. Il a cru le message de l'autorité du croyant. Il croyait qu'il avait l'autorité de prononcer la parole de Dieu sur sa vie. Et puis, il a dit, dans 3 jours, je rentre à la maison. Dans 3 jours, il était déménagé au ciel en parfaite santé. Hallelujah. Gloire à Dieu. Là, on est rendu à Jacques chapitre 1, verset 22. Il me dit, puis je vais essayer de terminer avec ça. Jacques chapitre 1. Et le verset 22 et 25. Ça nous dit ici,
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voyez-vous ici? La parole de Dieu que vous pratiquez, c'est celle qui va fonctionner dans votre vie. Vous pouvez entendre ce message et totalement l'oublier. Vous pouvez aussi le raisonner et dire, ben, ça marche pour certaines personnes, puis ça ne marche pas pour d'autres. Ça marche pour eux, mais pas pour moi. Vous pouvez raisonner. Ou vous pouvez faire ce que Dieu a dit dans Jacques 1, c'est mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voyez-vous comment Dieu est bon? Il nous avertit tout de suite, là. Verset 25, « N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là qui met en pratique la parole de Dieu, celui-là va être heureux, la Bible nous dit. Pourquoi? Parce qu'il va voir que ça fonctionne dans sa vie. Celui-là va être heureux, celui qui met en pratique la parole, qui n'est pas borné, puis dit, « Mais non, ça ne marche pas. » Bible du Sommeur. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, de m'écouter comme ce matin. Traduisez-la, votre écoute, en acte. Sans quoi, vous vous tromperez vous-même. Voulez-vous être trompé ce matin? Puis dites, ben, c'est un bien bon petit message. On va manger maintenant de la poutine, de la pizza. Si vous l'entendez, puis ça part, rentre dans l'oreille, puis ça sort de l'autre. Mais si vous avez compris ce matin, j'ai compris que la vie et la mort sont au pouvoir, sont dans la main de ma langue. Puis moi, j'ai choisi que je vais prendre mon privilège et déclarer sur ma réalité la bénédiction. Je veux déclarer la vérité sur ma réalité. La vérité va faire en sorte que ma réalité va se conformer à la vérité. Amen. C'est ça mon choix, puis je peux passer à côté, puis je peux dire non, j'y crois pas. Ou non, c'est pour les autres. Ou, ben, je vais l'essayer. Ça ne marchera pas pour vous. Ça ne marchera pas. Mais si vous croyez ce que je viens de vous dire, réécoutez le CD jusqu'à temps que ça descende dans votre cœur. Puis quand ça va être dans votre cœur, là, puis vous allez croire que c'est vrai, là, la Bible. Vous allez croire la Bible. Quand vous allez croire la Bible, là, ce qui va se passer, vous allez vivre différemment. Vous allez vivre différemment. Et là, vous allez dire, chaque parole, c'est un contenant comme ça. Et je vais bâtir ma vie avec des briques. Et je vais bâtir ma vie dans la bénédiction de Deutéronome 28. Tout ce qui est écrit dans Deutéronome 28, la bénédiction là, qui est écrite, je lis ça, là, wow. Hey, je termine avec ça. J'avais d'autres choses. Là. En passant, OK, donnez-moi 2 minutes de plus. Je vais vous donner juste des versets. Tournez pas, vous n'avez pas le temps. Tout ça pour vous dire, là, oubliez la passivité. Entrer dans le combat de la foi. Dieu n'appelle pas des lâches, Dieu appelle des gens de foi qui sont dans un combat de foi. C'est pour ça que vous êtes obligés. La Bible nous dit, dans Matthieu 11, verset 12, Bible du Sommeur, « Le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Admettons, ma femme, quand elle a reçu le verdict, le rapport, « Tu vas être malade toute ta vie. » Elle aurait pu dire « Ben, oh. » Ou, « Le royaume des cieux, la vérité de la parole de Dieu pour ma vie, se force un passage. Moi, je vais passer, là, puis je vais rentrer dans la place de la santé divine. » Même si les médecins disent « Non, t'es condamné à être malade. Non, je vais faire passage par ma foi. » Le bon combat de la foi. C'est quoi ce combat-là? Bien, c'est dans 1 Timothée 6, 12. Dans 1 Jean 5, verset 18, c'est dit « Quiconque est né de Dieu. » Êtes-vous né de Dieu? On l'a vu au tout début. C'est 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. » Il n'ouvre pas plein de portes au diable. Alléluia. « Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. » Je me garde pur. Alléluia. Les portes de diable sont fermées. « Et le malin ne le touche pas. » Le malin, il n'a pas le droit de me toucher. Comment ça? Parce que j'ai l'épée de l'esprit dans Éphésiens 6, 12. Ça dit, prenez aussi le casque du salut. Je sais qui je suis en Christ. Alléluia. Et l'épée de l'esprit, c'est quoi l'épée de l'esprit? C'est ça, qui est la parole de Dieu. L'esprit de l'esprit, l'épée de l'esprit. Je suis là avec l'épée. Si j'ai une épée, c'est parce qu'il y a un combat à livrer.
Avez-vous remarqué, ce n'est pas les fleurs de l'esprit? Ce n'est pas un petit foulard chaud de l'esprit? C'est une épée. C'est une épée de l'esprit. Puis là, le diable et ses mensonges, moi, je tranche ça puis j'égorge la tête. Comment ça, Hébreux 4:12, ça dit « La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. » On est appelé à la guerre, frères et sœurs. Vous faites passif, vous pouvez parler comme le diable, parler comme ce monde, puis vous attendre à vivre comme le monde. Mais moi, j'ai décidé, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous vivrons les miracles de Dieu. Toutes les choses sont écrites dans cette parole. Moi, je veux vivre l'héritage des enfants de Dieu, mais je veux m'accorder avec ce que Dieu a dit. Puis c'est pas que j'ai pas le droit de dire ici, j'ai pas le droit de faire ça, puis il faut que je fasse la négation. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai le privilège de déclarer ce que Dieu dit. J'ai le privilège de m'accorder avec Dieu. Puis savez-vous ce que je déclare dans vos vies, ceux qui y croient là? Je déclare sur vos vies qu'il n'y a rien de manquant, rien de brisé dans vos vies au nom de Jésus. Je les déclare de ma bouche et je relâche ça sur vous. Je déclare la bénédiction de l'Éternel sur vos têtes au nom de Jésus. Si vous êtes malade dans vos corps, je déclare au nom de Jésus la guérison de Jésus. Par ses meurtrisseurs, j'ai été guéri. Si vous avez des problèmes financiers aujourd'hui, je déclare que tous vos besoins sont rencontrés selon sa richesse avec gloire. Je le déclare sur votre tête au nom de Jésus. Amen. Moi, je le dis pour moi, amen, je reçois. Je reçois, Seigneur, parce que c'est ta parole. Je le déclare sous ma tête. Alléluia. Je déclare vos projets qui viennent de Dieu sont bénis de Dieu. Alléluia. La main de Dieu sur vos vies. Alléluia. Et gloire à Dieu. Et je déclare cette place est pleine à craquer au nom de Jésus. Je déclare que les paresseux spirituels au nom de Jésus sont visités par le Saint-Esprit aujourd'hui. Ceux qui devaient être à l'église ici, qui ont décidé de relaxer à la maison, je déclare au nom de Jésus que l'Esprit les visite maintenant au nom de Jésus. Ils ont une soif spirituelle. Ils quittent leur léthargie, leur fatigue spirituelle, leur paresse spirituelle au nom de Jésus. Je déclare la fidélité sur leur tête. Je déclare une révélation de la vérité, une déclaration de la fidélité et un amour pour l'Église locale. Je le déclare dans cette place. Un amour de l'Église locale, c'est un amour de ce que Dieu chérit, l'épouse de Christ. Alléluia! Je déclare ces choses-là sur vous, sur cette Église. Je déclare la croissance spirituelle et numérique dans cette Église. Je déclare la croissance dans nos finances dans cette Église. Lorsqu'il y a un projet, quand il y a des gens dans le besoin, je déclare qu'on est capable de les rencontrer parce que la provision de Dieu est là dans nos vies. Alléluia. Je déclare que vous avez les priorités de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Vous avez la pensée de Christ. Alléluia. Vous êtes des guerriers en Jésus. Alléluia. Vous êtes des guerriers, vous discernez les voix qui viennent de l'ennemi. Et les voix qui viennent de la chair. Vous entendez la voix de Dieu. Je déclare que dans cette place, vous entendez la voix de Dieu. C'est écrit dans la parole, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je déclare que vous suivez le Seigneur dans vos vies. Vous le suivez. Alléluia. Je déclare la prospérité dans votre travail. Lorsque vous travaillez, vous performez comme Speedy Gonzalez. Vous travaillez super rapidement. Dieu bénit et multiplie le travail de vos mains. Alléluia. Si vous avez des problèmes de couple, au nom de Jésus, je déclare l'harmonie au nom de Jésus. Je déclare des percées dans vos vies. Si vous êtes célibataire et vous voulez un mari ou une femme, je déclare la provision de Dieu pour votre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et pour les incrédules, je déclare que Dieu se révèle à vous. Je déclare, si vous doutez toujours la Bible, je déclare une visitation du Saint-Esprit sur votre vie. Je le déclare de ma bouche, le Saint-Esprit vous révèle sa parole. Puis vous ne voyez pas cette parole comme un livre seulement, mais vous voyez cette parole comme la parole de Dieu qui est puissante et tranchante, qui change vos vies et qui vous transforme. Alléluia. Amen. On va se lever, je vais inviter l'équipe de la louange. On va prier aussi pour nos amis sur Internet, partout à travers la francophonie. Nous déclarons la parole de Dieu sur vos têtes. Oh, la délivrance de toutes les œuvres de l'ennemi. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne la fait suivre d'aucun chagrin, la Bible nous dit. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que tu as promis que tu nous accompagnais à chaque jour de notre vie. Puis on te remercie pour cette belle semaine qu'on passe dans ta présence. On est pris au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.